Et là, qu'est-ce que j'entends? Eh ben, je te donne en mille, Binge Audio.
Depuis MeToo, c'est devenu un lieu commun. La parole, et la parole des femmes en particulier, se serait libérée et ce serait une avancée grandiose de la société. La libération de la parole, c'est un fait à aborder avec délicatesse. D'un côté, je crois qu'il y a quelque chose de vrai, on l'a un peu toutes constaté. C'est un phénomène qui se répète. Ça se passe souvent tard dans la nuit, en vacances dans le sud, ou c'est en fumant une clope à la fenêtre, avec cette femme qu'on vient de rencontrer à une soirée, ou alors avec une vieille amie du collège. C'est des récits qu'on se partage, c'est des conversations qui commencent par « tu sais, moi aussi ». Mais après, il se passe quoi? C'est tout? On devrait se satisfaire d'avoir le droit de faire un petit tweet vénère, un bouquin si on a de la chance, avant de retourner chez le psy et de rentrer, bien sagement, dans le rang. Moi, je crois que louer le phénomène de libération de la parole est bien pratique. Bien pratique pour ne rien remettre en question. C'est un refus d'obstacle du vieux monde. Louer la seule libération de la parole, ça permet de faire peser la responsabilité sur les victimes de s'absoudre des crimes qu'elles n'ont pas commis. La société, qui a échoué à les protéger, les témoins qui ont eu trop peur ou qui ont été trop lâches pour agir, les complices silencieux et les agresseurs, bien sûr, tout cela, non, on ne leur demande rien, ils ne doivent pas rendre compte, tout ça n'a pas d'importance pourvu que les victimes, elles, se libèrent. C'est un peu comme un confessionnal magique. Il suffirait de dire les choses pour que plus rien ne soit grave et surtout que rien ne change. Est-ce qu'on serait pas un peu en train de se faire avoir avec cette histoire de libération de la parole, mes très chers amis? La parole, libère-t-elle vraiment? Une parole libre au milieu d'un monde qui fait semblant d'écouter. Est-elle une prison plus douillette que celle du tabou? Nos silences ne nous protégeront pas, écrivait l'afroféministe Audrey Lorde. Et leur silence à eux, les silences des puissants, les silences du vieux monde, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils arrêtent de les protéger?
Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable.
On peut plus rien dire.
Vraiment, c'est n'importe quoi.
On peut plus rien dire.
Et la prochaine fois, ça sera quoi?
On peut plus rien dire.
Qu'est-ce que c'est que ça?
On peut plus rien dire.
Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander si la parole libère vraiment. Et j'ai la joie de recevoir Marine Turki. Marine Turki, vous êtes journaliste au pôle enquête de Mediapart, autrice de Faute de preuve, une enquête passionnante sur la justice post-MeToo. Cécile Delarue, vous êtes journaliste et autrice chargée de la communication au sein du collectif MeToo Media et vous faites partie des courageuses qui ont dénoncé PPDA. Et Fiona Texer, vous êtes collaboratrice d'élus, instigatrice du mouvement MeToo politique et autrice de l'excellent podcast produit chez nous, Y'a pas mort d'homme. Bonjour à tous, bienvenue mes très chers amis dans cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Cette semaine, nous nous demandons si la parole libère vraiment. Qui veut y aller?
Ouais, je veux bien commencer. Déjà, moi, le terme de libération de la parole m'énerve prodigieusement. J'essaie de ne pas l'écrire et j'essaie en tout cas de l'expliquer. On dit que depuis MeToo, la parole d'un seul coup se serait libérée. En réalité, moi, ce que je constate dans la plupart des affaires qu'on traite à Mediapart, c'est que dans la plupart des cas, les femmes avaient déjà dénoncé les violences auprès de proches, auprès de collègues, etc. Et elles n'ont pas toujours été entendues, les alertes n'ont pas toujours été suivies des faits. Donc, le problème, c'est plutôt que l'écoute doit se libérer et depuis MeToo, on assiste à un début de libération de l'écoute. Donc ça, voilà, c'est un lieu commun qu'il faut déjà, je pense, un petit peu détricoter et expliquer. Plus que la libération de la parole, c'est la libération de l'écoute et de la société qui est importante et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais le rôle des témoins dans ces affaires est extrêmement important et c'est là où il faut éveiller la société et que chacun et chacune se questionne sur ce qu'il voit, ce à quoi il assiste, est-ce qu'on a bien su recevoir telle et telle parole, en faire ce qu'il fallait, etc. cas.
Cécile Delarue, la libération de l'écoute, c'est quelque chose qui vous évoque... ça vous évoque quelque chose ?
Non, mais je suis d'accord avec Marine Turki. Moi, l'expression « libérer la parole » me hérisse. Et en même temps, c'est un lieu commun qui aussi dit les choses. C'est vrai que on parle plus, en tout cas, on entend plus. Moi, j'ai l'impression que quand même, le fait que certaines personnes aient parlé permet aussi à d'autres de discuter. Je sens que, par exemple, je sais que dans notre histoire, donc moi, je représente... j'arrive pas à chiffrer le nombre de femmes, mais on est des dizaines de femmes à avoir témoigné contre Patrick Poivre d'Avoir. Énormément, je crois qu'on en est à 26 ou 27 à avoir parlé aux enquêteurs. On en est à 7 plaintes pour viol. Donc ces femmes, en parlant, ont aussi déclenché la parole dans leur famille et dans leur entourage. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, par exemple. Le fait de parler, ça a aussi permis à ma mère de me raconter ce qui lui était arrivé quand elle a eu sa première expérience professionnelle. C'est une expérience qui a été catastrophique. Elle a aussi souffert de harcèlement sexuel. Et derrière, ça a changé toute sa carrière, toute sa vie. Mais ça, elle ne m'avait jamais dit avant. Et c'est parce que j'ai parlé qu'elle a parlé. Et je me rends compte que, parce que moi j'ai parlé, d'autres personnes me parlent et me racontent, un peu comme ce que vous disiez dans votre intro, le truc, le petit café, le truc le soir, tard, où tout d'un coup on dit, mais tu sais, en fait, moi aussi, oui. Donc en effet, en tout cas, les discussions changent. Et des choses qui étaient tues ressortent. On n'ose plus parler. Après, est-ce que ça change à l'intérieur de soi ? Est-ce que ça répare cette libération de la parole ? J'en suis pas du tout sûre.
C'est justement la question passionnante qu'on va essayer de se poser. Mais Fiona Texer, est-ce que vous aussi, c'est quelque chose que vous avez constaté en politique, tout d'un coup, ces histoires qui affluent, ces témoignages ?
Il y a eu ce moment où, en fait, c'est passé au-dessus de la ligne de flottaison, en fait. Avant, on avait le sentiment que ces histoires-là, elles existaient, on se les racontait entre collaboratrices. Moi, j'ai travaillé longtemps au Sénat, et évidemment, il y avait toujours des mises en garde. La collègue qui va dire « Prends pas l'ascenseur avec lui, fais attention, tu ne retrouves pas en séance de nuit, parce qu'en fait, il est très compliqué. Enfin, prends pas un taxi toute seule avec lui. » Donc, ces histoires-là, en fait, on les connaissait. C'est le moment où elles sont devenues... public qui a changé les choses et en même temps changer les choses, c'est-à-dire qu'on se sent mieux parce que les autres en parlent et on se dit je suis pas folle et c'est pas dans ma tête. Pour autant, ça veut pas dire qu'il y a eu des prises de conscience de l'institution. Alors certes, il y a eu des cellules d'écoute qui ont commencé à être mises en place, notamment au niveau des partis politiques et au niveau des institutions, je pense à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il n'y a pas d'équivalent encore pour les cabinets ministériels, par exemple, ou pour d'autres types de structures. Je ne sais pas, par exemple, il n'y en a pas dans toutes les mairies et tout ça. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a un traitement à la hauteur de la gravité du problème. Les cellules d'écoute, elles se sont mises en place sous la pression d'enquêtes de presse, la plupart du temps. Elles ne sont pas pour autant fonctionnelles. Et il y a encore un déni profond. Je pense par exemple au président du Sénat qui dit il y a 6 mois qu'il ne se soumet volontairement pas à l'article 40 du Code de procédure pénale qui lui impose de dénoncer au procureur des faits pouvant être des délits ou des crimes dont il aurait connaissance. C'est-à-dire que quand il y a un collaborateur ou une collaboratrice qui va lui dire « moi je suis victime de harcèlement », que ce soit d'ailleurs moral ou sexuel, la logique voudrait qu'il informe le procureur. Il ne le fait pas, il fait le choix de ne pas le faire, et ça peut s'arrêter là. Donc il manque cette libération de l'écoute, effectivement.
La réponse de la société, elle semble avoir été, pour l'instant, en tout cas pas du tout à la hauteur. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on se dit quand on lit votre livre, Marine Turki, où on se rend compte à quel point c'est complexe, voire presque impossible, de se faire entendre par la justice quand on a été victime.
Il y a un chiffre qui est terrible, hein. 73% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Ce niveau de classement, on le retrouve pour d'autres types de délits ou de crimes, mais il y a une différence, c'est que pour les violences sexuelles, dans la plupart des cas, 80-90% des cas, l'auteur, il est identifié. On n'est pas à la recherche de l'auteur, on sait qui est le mis en cause. Le problème, c'est de trouver les éléments, les preuves qui vont permettre d'entrer en voie de condamnation. Donc ce chiffre, il est accablant. Et ça participe d'une défiance des gens à l'égard de la justice, aussi parce que la justice renvoie l'image quand même d'une institution très froide qui n'entendrait pas ces paroles. Ce que moi j'ai constaté dans toutes les enquêtes judiciaires que j'ai pu éplucher, c'est que le gros travail d'enquête, d'audition de l'entourage est davantage fait, en tout cas au stade de l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, c'est la première étape d'une enquête au niveau du parquet, avant même d'atterrir entre les mains d'un juge. À cette étape-là, Bah, c'est surtout l'entourage des personnes plaignantes qui est auditionné. On va beaucoup fouiller finalement la vie, les déclarations, l'entourage de la plaignante. On l'a vu encore récemment dans l'affaire du 36 quai des Orfèvres, hein, cette touriste canadienne qui a accusé des policiers de la BRI de viol. Toute sa vie a été passée au crible. On a vu son ex-mari, qu'elle n'a pas revu depuis 8-9 ans, être auditionné par la police et livrer des éléments qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Donc cette enquête d'environnement est on la retrouve surtout du côté des plaignants à ce stade. Du côté des mis en cause, ça va être fait davantage en fait, au niveau de l'instruction. Mais encore faut-il arriver à cette étape. L'instruction, quand il y a un juge qui...
L'instruction, ça veut dire que les policiers ont communiqué les éléments à un juge d'instruction et ont dit « Ok, on continue l'enquête ».
Ça veut dire qu'après l'étape du parquet, il y a un juge indépendant, au statut indépendant, qui est saisi de l'affaire, avec donc des moyens d'enquête plus importants, avec un moyen d'accéder au dossier pour les deux parties.
C'est un deuxième niveau d'enquête.
C'est un deuxième niveau. Il faut savoir que, voilà, comme je disais, 73% des plaintes sont classées à l'étape du parquet. Donc c'est un premier filtre énorme. Si vous arrivez jusqu'au juge, bah oui, là il y aura un peu plus de moyens d'enquête. Mais je vais donner un exemple très concret. On en parle souvent, les expertises psy. Bah, les expertises psy, les plaignantes, ils sont soumises automatiquement. Officiellement, c'est pour en fait
évaluer... Ça veut dire si demain je vais porter plainte pour viol, je vais être soumise à une expertise psy.
Voilà, exactement. Et cette expertise psy, officiellement, elle sert à voir l'éventuel traumatisme, les effets sur la victime des potentielles violences qu'elle a subies. Mais en fait, il y a aussi un on dit sur cette expertise psy, c'est que en fait, c'est aussi pour l'air de rien vérifier un peu la crédibilité de la victime, et c'est l'éternel soupçon du mensonge, on va sans doute en parler. Voilà. Et ben, les mis en cause, eux, à ce stade de la préliminaire, c'est très très rare qu'ils soient soumis à cette expertise psy. Donc du coup, l'effet, il est terrible, c'est que la plaignante a l'impression que on va lui faire une deuxième audition, en plus on lui dit, vous allez aller voir un psy, donc dans l'imaginaire, un médecin, il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, etc. Et en fait, on va essayer de voir là aussi s'il y a des contradictions. Qu'est-ce qu'elle dit dans ce moment-là? Donc, ça fait partie de cette défiance. Et effectivement, la réponse de la société et donc d'une institution comme la justice n'est pas à la hauteur. Et il ne s'agit pas juste de dire tous les policiers sont nuls, les magistrats sont tous sexistes. C'est plus compliqué que ça. Ils n'ont pas de moyens non plus pour pouvoir mener leurs enquêtes. Ils ne peuvent pas aller chercher d'autres victimes dans les affaires. Ils n'ont pas le temps de recevoir correctement les plaintes. Voilà. Après, il y a aussi, on va en parler, des préjugés sexistes énormes qui continue quand même d'alimenter encore des tas de PV d'audition qu'on peut voir. Et c'est pas juste les policiers, c'est aussi les magistrats et les magistrates. Il y a un grand nombre de stéréotypes qui sont plaqués sur ces dossiers, et nous on le voit à Mediapart quand on épluche ces dossiers. On voit des questions hallucinantes, on voit des manières de poser les questions qui sont empreintes de préjugés et qui aussi méconnaissent les effets des violences et le phénomène des violences sexuelles. C'est là où il y a une marge de progression qui doit être faite. Il faut former, il faut donner plus de moyens, et à un moment donné, il faut que la société globalement combatte tous ces préjugés sexistes qui imprègnent quand même toutes ces auditions et qui sont aussi le fait de femmes, il faut le dire. Il y a des préjugés voilà, qui imprègnent tout le monde. Moi j'ai vu des... Par exemple dans l'affaire Georges Tron, l'ordonnance de non-lieu est complètement dingue. Il y a des préjugés qui imprègnent les questions, qui imprègnent les conclusions. Si telle plaignante avait une vie sexuelle très libérée, si l'autre était bisexuel, si l'autre encore buvait beaucoup d'alcool...
Encore aujourd'hui, il y a ce soupçon de toujours, si t'aimes coucher avec des mecs, tu vas aimer te faire violer.
C'est par exemple le cas dans l'affaire du 36 qui a des orfèvres dont je parlais. C'est-à-dire que quand même, on explique qu'elle avait bu, donc au lieu de considérer ça comme une circonstance aggravante...
Oui, qu'elle était vulnérable, qu'elle n'était pas en pleine possession de ses moyens.
Exactement. Eh bien, en fait, on va considérer que c'était open bar pour les policiers de tenter des choses. C'est ce type de préjugés qui sont encore vivaces, et en fait c'est la loterie, c'est-à-dire que vous pouvez tomber sur un policier ou une policière ou un magistrat ou une magistrate qui aura pleinement compris les phénomènes des violences sexuelles, les conséquences, les réactions possibles des victimes, etc. Et vous pouvez tomber sur d'autres qui en fait vont continuer d'être imprégnés de ces préjugés, parce qu'en fait on est tous des individus, des humains avec une éducation, et on est imprégnés de tout ça.
Cécile Delarue, donc vous êtes avec nous, et vous faites partie des courageuses qui ont dénoncé PPDA, et vous avez déposé plainte contre lui. Comment ça s'est passé pour vous, justement, ce parcours policier judiciaire? Aujourd'hui, d'ailleurs, ironie tragique de l'histoire, c'est lui maintenant qui a redéposé plainte contre vous pour dénonciation calomnieuse. Comment vous vous sentez?
comment je me sentais là, comment je me sens là tout de suite. pas super contente de me retrouver à devoir, voilà, après avoir beaucoup réfléchi avant d'aller parler et même de déposer plainte, de me retrouver avec une plainte contre moi et devoir et contre d'autres personnes et de devoir réfléchir ensemble à voilà, il faut trouver un avocat, il va falloir dépenser de l'argent, enfin c'est pas du tout voilà. Moi, mon rapport avec cette plainte, ça s'est passé en fait avec, enfin la première plainte, celle que j'ai déposée, il a été en plusieurs étapes. J'ai d'abord entendu Florence Porcel, j'ai entendu qu'elle avait porté plainte. Je savais depuis longtemps qu'il y avait un énorme problème avec cet homme. Je savais depuis moins longtemps que ma voisine de bureau avait été violée par cet homme. Donc quand j'ai lu la plainte de Florence Porcel, je l'ai évidemment cru tout de suite, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient beaucoup à ce que je savais déjà, et qui n'était pas public. Donc j'ai décidé tout de suite d'aller parler à la police. Et je dis bien tout de suite, c'est vers ça tout de suite que j'ai essayé d'aller, parce que moi par exemple quand il y a eu le MeToo, j'étais aux États-Unis à l'époque, j'habitais en Californie, j'ai fait un post, alors c'était pas sur Twitter, c'est parce que j'étais pas trop sur Twitter, c'était sur Facebook, j'avais raconté sur Facebook ce qui m'était arrivé, l'agression sexuelle que j'avais, enfin le harcèlement sexuel de cet homme, et je voilà, j'en avais déjà parlé, mais c'était compliqué d'en parler parce que j'avais pas donné le nom, par exemple, parce que je ne voulais surtout pas qu'on sache, qu'on puisse penser que je disais ça pour faire mon intéressante ou pour voilà, il y avait tout le truc de attention, il faut pas lancer un tribunal médiatique, il faut pas faire la chasse aux sorcières, faire très attention. Donc j'étais tout de suite allée voir quand il y a eu la plainte de Florence Porcel, je suis tout de suite allée voir, je me suis tout de suite tournée vers la police, et ça s'est bien passé. J'ai été accueillie très bien. Je pense que c'est le cas de la plupart des femmes dans cette histoire. Pas toutes, mais la plupart. On a été entendues. Il y a eu des questions qui n'ont pas été toujours très malines, mais voire choquantes. Je crois qu'il y a un des enquêteurs qui a demandé à une des personnes qui accusait de viol si elle avait joui. Ça, c'est pas possible. Mais en tout cas, ça ressemblait plus à, voilà, à une écoute suite à la libération de la parole.
Est-ce que vous êtes d'accord pour nous dire ou nous raconter ce qui vous est arrivé, vous, quand vous travaillez à TF1 avec PPDA ?
Oui, bah, pour moi, c'est simple. Ce que j'ai essayé de vous expliquer un petit peu avant, ce qui est plus compliqué, c'est que justement, quand on se retrouve à être victime, j'aime pas ce mot, mais bon, voilà. En tout cas, de dénoncer quelque chose et de dénoncer publiquement, on se retrouve après systématiquement à devoir le raconter des milliards de fois, et c'est pas forcément très drôle. Moi, en l'occurrence, je parle juste de harcèlement sexuel. Moi, j'étais dans un ascenseur, je travaillais à TF1, on m'avait prévenu exactement comme Fiona l'expliquait un petit peu avant, on m'avait prévenu des tonnes de fois qu'il fallait absolument faire attention à ne pas se retrouver en sa présence. On m'avait dit, est-ce qu'il te l'a fait ? C'est un des premiers trucs qu'on m'a dit quand je suis arrivée à la rédaction. Dans un ascenseur, il m'a demandé, j'avais 22 ans, il devait en avoir, je ne sais pas, 30 de plus, si j'étais fiancée, si j'étais mariée, si j'étais fidèle. Et ça m'a... ça me semble... ça me semble à la fois ridicule et en même temps ça m'a complètement paniquée à l'époque. Et après, derrière, c'était donc mon supérieur hiérarchique, et je me suis retrouvée à le fuir partout parce que j'avais très peur de me retrouver en sa présence et d'être humiliée, en fait, parce qu'en fait clairement je me suis sentie humiliée parce que j'étais pas toute seule avec lui dans cet ascenseur, j'étais devant mes autres supérieurs hiérarchiques qui ont rigolé,
qui sont restés goguenards en mode ah oui, c'est la... ça y est, elle y passe, quoi.
Ils ont ri, c'était limite on se donne du coup de coude, ah bah ça y est, c'est elle, est-ce qu'elle va y passer, et la question c'était est-ce qu'elle va coucher ou pas, et si tu couchais ou pas, après derrière, t'étais dans la liste des salopes qui, tout ce que tu pouvais après obtenir, était forcément lié, enfin obtenir dans ta carrière.
Taché de ce sceau.
Donc du coup, pour pas être taché de ça, tu te retrouvais à fuir absolument cet homme, donc ne pas aller, par exemple, moi j'allais plus aux conférences de rédaction du 20h, qui sont un endroit de pouvoir, en fait, c'est l'endroit où on décide qui va où, qui fait quoi. Les filles de ma génération n'allaient plus dans cet endroit-là.
Quand vous racontez ça, là, le fait que justement les filles de votre génération, vous alliez plus aux confs de rédac du 20h, etc. Moi, ça me fait penser à ce concept que brandissent les réacs de cancel culture. Et j'ai envie de dire, mais c'est nous qui avons été cancel. Justement, de ne pas pouvoir se rendre dans ces lieux de pouvoir, avoir peur, devoir se cacher. C'est nos carrières à nous qui ont été entachées. Fiona Texer.
C'est la formule de Gérald Darmanin lorsqu'il essaie de balayer les accusations qui sont portées contre lui. Il dit « oui, j'ai eu une vie de jeune homme ». Et ce qui est fascinant, c'est ce qui met derrière la vie de jeune homme, c'est des femmes qui changent de parcours, qui changent de vie, qui parfois plongent dans une dépression, qui vont se quitter le travail pour lequel elles étaient peut-être destinées, qui vont ne pas briguer des mandats électifs. Et pendant ce temps-là, nous, je dis nous parce que moi aussi j'étais victime de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle dans le monde politique, on a des vies de jeunes femmes, en fait. Dans l'autre sens, c'est des vies de jeunes femmes. Ça va être des stratégies d'évitement, des moyens détournés de ne pas rencontrer telle ou telle personne, ce qui veut dire parfois se fermer des portes. Je pense par exemple à une très proche amie qui avait voulu postuler dans l'équipe de campagne d'un candidat à la présidentielle en 2011, Nicolas Hulot, et on lui avait dit « Mais non, tu pourras pas, tu l'excites trop. » Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'on se ferme des portes de parcours. Ça veut dire que d'une part, en face, il savait très bien quel était le problème, et ça voulait dire aussi « Ah ben non, on va prendre des gars. Comme ça, ce sera plus simple. » Alors, en un sens, ça protège, mais dans l'autre, ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre aux mêmes chances. Et quelles conséquences ça a sur la vie démocratique? Ça veut dire que 5, 10, 15 ans, 20 ans après, on cherche des femmes pour les mettre sur les listes électorales, puisque c'est quand même le seul effet de la parité, c'est de se dire que les faiseurs de listes doivent maintenant composer en trouvant 50% de meufs à mettre sur la liste pour les élections. Ah ben on est là, bah oui, mais elles veulent pas y aller, on sait pas, on leur a demandé, mais elles disent non, elles hésitent, on a du mal à trouver. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de faire en sorte que les conditions pour exercer la profession politique, pour exercer les mandats, sont satisfaisantes pour le faire sans danger pour les femmes?
Fiona Texer, donc vous avez lancé en septembre à peu près le mouvement MeToo politique. Pourquoi l'avoir choisi de le lancer au moment d'une campagne présidentielle? Qu'est-ce que ça changeait dans le rapport de force?
C'est quelque chose que moi j'avais observé depuis plusieurs années. J'avais fait une première tentative en 2019, juste avant les élections municipales. En fait, lorsque on souhaite dénoncer les agissements de quelqu'un, le plus souvent, les agresseurs sont dans une situation de pouvoir par rapport à leurs victimes. Ça, c'est un peu un classique. C'est encore plus renforcé par le mandat. Je pense par exemple au mandat parlementaire qui offre une immunité parlementaire, ce qui fait que c'est encore plus dur d'aller en justice lorsqu'on est face à un parlementaire. Et il y a un moment qui se produit tous les 5 ans pour les parlementaires, tous les 6 ans pour les maires, etc., où il y a une forme de faiblesse. C'est le moment des investitures. Parce que là, ils sont en attente et parce que là, en fait, d'une certaine façon, les hommes politiques, ils craignent beaucoup plus, entre guillemets, le tribunal populaire ou de l'opinion que le tribunal qui les condamne quand même très peu. On a parlé de Georges Tron, mais ça reste quand même un cas très particulier, presque l'exception qui confirme la règle. Et donc, ce qu'ils redoutent, c'est de ne pas être réélus. Et donc, l'intérêt de lancer MeToo politique en année présidentielle et en année législative, c'est de pouvoir mettre le projecteur sur les élus les plus problématiques, ceux qui ont fait l'objet de dénonciations pour des violences sexuelles, et de le faire au moment où leur parti va les réinvestir ou non, où les électeurs vont les réélire ou non, et ça permet aussi aux gens de voter en connaissance de cause.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il faut réfléchir presque comme une stratège politique quand on veut porter son discours ou sa justice. C'est un peu les réflexions qu'on s'était dit au moment où vous aviez fait cette vidéo bluffante avec Adèle Haenel, Marine Turki, qu'elle était extrêmement puissante aussi, qu'elle pouvait, sa parole avait un impact parce qu'elle était aussi extrêmement puissante. Voilà, c'est une actrice, elle est magnifique, elle est plus connue que son agresseur. Et donc là, les conditions sont réunies pour qu'elle soit entendue. Je me demande comment faire, qu'est-ce qu'on peut donner même comme argument aux femmes pour les aider à transmettre cette puissance? Est-ce qu'il faut être beaucoup, par exemple, pour porter plainte? Comment faire pour que notre parole soit puissante, comme celle d'Adèle Haenel ou comme celle du MeToo politique?
Moi, je pense qu'il faut retourner les choses. Je pense que la société doit apprendre qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises victimes apprendre à recueillir toutes les paroles.
Évidemment, on est d'accord. Et on n'y est
pas. Et on n'y est pas parce que Adèle Haenel, il y a plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous l'avez dit, elle était puissante, elle avait un certain statut, elle était vraiment au climax de sa carrière, notoriété, etc. Et elle le dit sur Mediapart. Elle dit, c'est parce que j'ai ce statut que je peux parler, donc je le fais aussi pour les autres. Mais il y a autre chose. Elle dénonce des violences sexuelles qui ont eu lieu quand elle avait 12 ans. Et donc, quelque part, il y a moins le soupçon du mensonge sur un enfant, une enfant. Et ça, c'est aussi terrible. Et troisième chose, elle est lesbienne, donc quelque part, il y avait moins cet autre stéréotype qui est de dire, quelque part, elle a pu l'allumer, etc. Bon, bah non, elle est lesbienne, etc. Donc, on est sur trois éléments qui jouent en sa faveur. Mais c'est terrible. On ne devrait pas avoir ça pour pouvoir être entendu. Et je remarque qu'en France, les affaires qui ont eu le plus gros retentissement, où les femmes ont été crues d'emblée, c'est des affaires où les personnes dénonçaient des violences quand elles étaient mineures. Donc, des affaires de pédocriminalité. Mais il faut qu'on apprenne à entendre des récits qui ne sont pas des longues lignes droites. Des récits où les victimes ne sont pas ce qu'on voudrait qu'elles soient. Il y a tout un tas de personnes victimes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne devrait pas dire les victimes comme un groupe, un bloc où tout le monde est pareil et tout le monde réagit pareil. Moi, je le dis dans le livre, il faut parler des personnes victimes, et il y en a qui veulent d'ailleurs ce statut de victime, il y en a d'autres qui le rejettent, qui n'aiment pas ce mot, il y en a qui n'ont pas envie que toute leur vie on les ramène à ça, il y en a d'autres qui veulent que l'agresseur en prison, d'autres non, il y en a qui veulent un name and shame, d'autres non, enfin voilà, donc il faut apprendre à recueillir toutes ces paroles, à ne pas juger en fait des choses qui sont périphériques sur les vies dissolues ou pas des personnes, il faut chasser ces préjugés, donc je pense que plutôt que de se demander comment on doit faire pour être entendu, etc., quand on est une personne victime, il faut plutôt éduquer la société sur les violences sexuelles, sur les stéréotypes de genre, sur les discriminations en tout genre, pour pouvoir ouvrir la porte à tous ces récits. Moi, j'ai bossé sur des tas d'enquêtes où, je pense notamment à l'affaire Besson, les stéréotypes qui ont été plaqués sur la plaignante.
Ah, oui, Sandra Van Roy, elle a été lynchée. Enfin, c'est horrible.
C'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais elle a fait face à de nombreuses fake news relayées par la presse. On a raconté ça sur Mediapart. Et du coup, une fois que vous êtes frappé de ce préjugé, alors elle, c'était en gros l'accusation de finalement elle n'a pas eu un rôle, donc elle s'est vengée. Faut quand même apprendre à entendre les paroles, parce que pour les personnes victimes, on leur dit tout le temps qu'elles ont soit parlé trop tard, soit qu'elles se sont tues trop longtemps. C'est jamais le moment. C'est jamais le bon moment quand elles parlent, c'est jamais la bonne manière. On leur dit qu'elles n'auraient pas dû faire comme ci ou comme ça. Si elles vont dans les médias, on leur dit c'est pas ici que ça se passe, elles veulent se faire de la pub. Si elles vont voir la justice et que c'est classé, qu'est-ce qui se passe ensuite pour elles? Donc c'est jamais le bon moment, c'est jamais la bonne manière. Donc je crois qu'il faut renverser le prisme et éduquer la société dans son ensemble, dès le plus jeune âge aussi, sur les stéréotypes de genre, sur les violences sexuelles, pour enfin accueillir toutes ces paroles.
Cécile Delarue, tout à l'heure, vous disiez que le mot victime, c'était, il ne vous plaisait pas.
Bah oui, moi, il me plaît pas parce que déjà, il y a toujours cette idée de, je veux pas surtout que ce soit une ligne de mon CV, quoi. Parce qu'en plus, j'ai fait ma carrière professionnelle après derrière. Alors après, je sais pas ce qu'elle aurait été si ça n'aurait pas, ne serait pas arrivé. Et je pense surtout en fait qu'il y a des femmes dans notre groupe qui sont pour le coup victimes. Qui n'ont pas non plus du tout envie d'avoir ce mot-là. Les Américaines disent « survivor ». Je ne suis pas non plus super à l'aise avec ça. Et en même temps, voilà, je crois qu'un mot est un mot. Enfin, je me suis fait voler ma voiture l'année dernière. Oui. J'étais victime de... c'est pas non plus... C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a peur après d'avoir l'étiquette à jamais... sur la tête et on n'a pas envie de ça. Après, je pense qu'en vrai, si on regarde bien et plus on parle, on se rend compte qu'on a tous été plus ou moins victimes. Et moi, je dis souvent, je pense que si on voulait vraiment montrer le problème dans lequel la société et la société française est en ce moment, et surtout le problème des femmes, c'est si on osait toutes aller porter plainte. On a toutes été victimes de harcèlement sexuel. D'agression sexuelle. Il y a quand même quasiment toutes les femmes françaises qui ont pu avoir subi quelque chose. Si elles osaient toutes aller au commissariat ou à la gendarmerie du coin pour aller dire, voilà, il m'est arrivé ça, on serait dans une situation complètement catastrophique parce que, techniquement, il n'y a pas l'argent et le temps pour accueillir tout ça. Même s'il y a un effort. Moi, j'ai porté plainte récemment pour d'autres raisons privées et pour violence aussi, j'ai pu voir, pour le coup, qu'il y avait vraiment un changement dans la façon dont on accueille cette parole. Après, c'est un petit peu... Les mecs sont... ils savent pas trop comment faire, ils sont un petit peu paumés, ils essaient de faire attention et tout. Mais il y a une volonté. Il faut essayer de saisir ce truc-là pour que ça change. Et puis peut-être aussi, il faut qu'on s'éduque et qu'on éduque les gens autour de nous, non seulement à libérer la parole, mais surtout à comment porter plainte.
Mais c'est exactement, je suis entièrement d'accord avec vous, pardon, je prends parti dans le débat, mais parce que je suis d'accord qu'il faut attendre que la société bouge, il faut éduquer, il faut faire bouger les lignes, etc. Mais si on est victime aujourd'hui, dans ce monde sexiste, dans ce monde imparfait, j'ai une amie, moi, par exemple, je suis désolée, je vais vous parler vrai, et j'ai une amie racisée qui va toujours chez le médecin en tailleur, parce que sinon le médecin lui dit toujours, arrête de manger épicé, tu n'as rien. Et donc elle fait le constat que quand elle va chez le médecin en tailleur, eh ben, on la prend plus au sérieux pour ses symptômes. Mmh. Donc, est-ce qu'il faut aller chez les flics en tailleur? Est-ce que c'est un conseil qu'il faut donner? Est-ce que si on a une amie qui se fait agresser, eh ben, il faut lui offrir un putain de tailleur?
Alors moi, je dirais qu'en fait, il ne faut pas aller chez les flics parce qu'il y a une façon de porter plainte qui est beaucoup plus douce, entre guillemets, pour les victimes, qui est la lettre plainte. Qui est dire qu'une fois qu'on... Évidemment, il faut un avocat et tout ça, mais... Il faut les mots pour savoir écrire, mais quand ça s'est réuni, s'adresser directement au procureur de la République par le biais d'une lettre, et donc où on met son témoignage d'abord à l'écrit, c'est un procédé qui est peu connu, mais qui est beaucoup moins douloureux que d'aller faire la queue devant le commissariat, de devoir dire au guichet pourquoi on est là, et d'être reçu... Enfin, il y a des commissariats, ça c'est dramatique, hein, peu de moyens de la police, mais des commissariats qui sont quand même assez glauques. Quoi. Oui. Alors que le biais de la lettre plainte, où on s'adresse au procureur et ensuite le procureur confie l'enquête à la brigade de police, et donc on est convoqué à une heure spéciale, dans un bureau fermé, etc., c'est beaucoup moins violent pour les victimes. Et ça, peu de gens le savent. Et en fait, on parlait tout à l'heure de quelle stratégie il faudrait. Alors oui, dans l'absolu, on ne devrait pas avoir besoin de stratégie pour que ça se passe bien.
Bien sûr.
Mais dans les faits, quand c'est possible, et pour ça, il faut un certain nombre de privilèges pour que ce soit possible. Mais quand c'est possible, ça vaut la peine de réfléchir à des stratégies. Moi, je suis persuadée que les hommes, quand ils agressent, ils ont une stratégie, en fait. Enfin, on le voit, par exemple, quand ce sont des cas répétés. Si on prend les affaires Hulot ou PPDA, on voit bien qu'il y a des modes opératoires qui sont récurrents. Et même quand on prend les affaires au global, on voit bien qu'il y a des modus operandi, en fait. Il y a des choses qu'on retrouve toujours. Essayer d'isoler la victime, essayer de la réduire au silence, essayer de la faire passer pour une folle, y aller par étapes. Enfin, bref, on voit bien qu'il y a des stratégies. Et donc, je ne vois pas pourquoi les victimes, les survivants, enfin, du moins celles qui sont... dans la situation de vouloir porter plainte derrière, il ne faut pas s'interdire de réfléchir à comment faire par les moyens les moins douloureux pour la justice, en étant bien entouré, parce qu'il faut être sacrément solide pour y arriver. C'est horrible à dire, mais aussi, il faut quand même un peu d'argent, parce que sinon, c'est très dur. Et donc, réfléchir à tout ça, c'est une façon de rendre le processus judiciaire moins douloureux. Il faut rappeler que plus de 80% des personnes qui portent plainte le regrettent. Et ça, c'est un chiffre qui est terrible. Il faut s'armer, il faut s'outiller pour faire en sorte que ça ne soit pas le cas.
Une des solutions, entre guillemets, c'est aussi le groupe, le nombre. J'imagine que Cécile Delarue ou vous, d'être ensemble, tout ensemble, ça donne de la force.
Alors, une des solutions, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, parce que comme la personne qu'on accuse nous accuse de nous lier en bande et d'avoir préparé tout avant, parce qu'on serait une espèce de bande de menteuses mythomanes arrivistes qui ferait ça pour pouvoir je ne sais quoi d'ailleurs, pouvoir le lui nuire. Oui, le groupe aide beaucoup. On a eu la chance incroyable de se rencontrer toutes, d'abord parce que certaines d'entre nous ont parlé, ensuite parce qu'on s'est parlé entre nous, enfin voilà, on se retrouve, ou alors parce qu'on a porté plainte, enfin bref, on se retrouve en groupe et ça nous aide beaucoup, en effet. Ça aide pour pouvoir discuter, de trouver un autre entre soi, qui est celui de l'amitié, du soutien moral, parce que c'est compliqué, justement, quand on commence à décider de sortir du bois face à l'entourage, les compagnons...
Et vous avez créé le collectif.
N'ont pas forcément envie de suivre, la famille... bon, c'est bon, là, tu vas peut-être arrêter avec ça. Enfin, c'est gênant. Et ça aide beaucoup. Voilà, en effet, nous, on a cette chance terrible d'avoir été toutes victimes d'un prédateur sexuel en série, qui fait qu'on se retrouve tout ensemble.
Marine Turki.
Non, ce que je voulais ajouter, c'est que il y a aussi beaucoup de personnes victimes qui vivent ça dans un huis clos familial, par exemple viol conjugal, et qui se retrouvent justement extrêmement seules, avec une justice qui va lui renvoyer le fait que bon, c'est parole contre parole, hein, la fameuse expression qu'on entend souvent, alors qu'en réalité, dans ces affaires, c'est plutôt parole au pluriel, celle de plusieurs victimes, contre parole, celle du mis en cause. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la justice, elle fait rarement ce travail d'aller chercher d'autres personnes victimes. On le fait dans les affaires de tueurs en série. On va remonter un petit peu la vie du mis en cause, on va essayer de trouver d'autres victimes. Et en réalité, les agresseurs sexuels ou les violeurs sont aussi, la plupart du temps, des agresseurs en série, mais on ne fait pas ce travail de remonter. Et pourquoi c'est important ? C'est qu'en fait, bah évidemment, dans ces affaires où la matérialité, les preuves sont difficiles parfois à faire émerger, c'est la multiplication des témoignages qui va permettre de faire émerger une forme de vérité judiciaire. Mais je rejoins ce qu'a dit Cécile Delarue, c'est qu'en fait, souvent, quand plusieurs personnes vont rentrer en contact pour essayer de dénoncer les faits en même temps ou d'aller ensuite témoigner comme dans l'affaire PPDA pour soutenir la plaignante en disant moi aussi j'ai vécu la même chose, ça se retourne en accusation de complot, une accusation que nous médias on voit dans toutes les affaires. La plupart des réponses du mis en cause sont souvent les seules réponses, c'est que quand même tout ça n'est qu'un complot. Moi je l'ai vu dans une affaire que je raconte dans le livre qui concerne un petit groupe de jeunes hommes d'anciens scouts qui ont été victimes, qui disent avoir été victimes du même homme, et en fait une parole a débloqué une autre. Et c'est souvent le cas, c'est qu'il y en a un qui ose porter plainte et les autres en soutien, en solidarité vont aller témoigner, et du coup le mis en cause va dire regardez c'est un complot. Et il faut savoir que dans cette affaire-là justement en l'occurrence, cet argument, il a quand même été entendu par la justice. Donc d'un côté, quand il n'y a qu'une personne qui dénonce des faits, on dit on ne sait pas, c'est par le contre-parole. Et quand il y en a plusieurs, l'argument du complot, de la concertation, va émerger rapidement. Alors même que c'est assez logique, notamment quand les affaires sont médiatisées, que quand à un moment donné, une personne dénonce des faits, d'autres vont venir en soutien. Et dans l'affaire PPDA, c'est exactement ce qui s'est passé. Après la plainte de Florence Porcel, beaucoup de femmes se sont dit elle est accusée de mentir, on ne la croit pas, elle est toute seule. Nous, on sait que nous, on a vécu la même chose, donc on va aller déposer ce témoignage, cette petite pierre. C'est important quand même.
Tout à fait. Je suis contrainte de vous interrompre une petite poignée de secondes. On se retrouve juste après cette toute petite pause. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire, nous sommes en train de nous demander si la parole libère vraiment, avec les passionnantes Marine Turki, Fiona Texer et Cécile Delarue. Cécile Delarue, je me tourne vers vous à nouveau, il y a un aspect du poids de la parole que vous venez d'évoquer, c'est aussi les conséquences dans sa vie à soi, sa vie privée, auprès de ses proches, auprès de sa famille. Parler, c'est rarement indolore dans sa vie privée, ça a souvent un impact. Comment ça s'est passé pour vous ?
Pour moi, ça s'est plutôt bien passé parce que moi, je parlais depuis longtemps. En fait, ça, je le racontais depuis longtemps. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que certaines femmes ont parlé avant même que Florence Porcel ait porté plainte. C'est peut-être un peu plus compliqué au niveau professionnel parce qu'on est sur un cas quand même très très particulier. C'est que on est toutes. On parle de quelqu'un qui était très haut placé dans les médias, qui avait énormément de pouvoir, qui en a encore énormément. Et moi, je suis journaliste à la télé. J'écris aussi des livres, mais voilà. Clairement, cet homme a du pouvoir sur les gens qui vont pouvoir, oui ou non, m'embaucher. Il y a un peu cette peur qu'il y avait déjà un peu au début, de « attention, tu vas te griller, fais gaffe ». Et c'est parler à l'intérieur qui est compliqué. Et moi, je vois de plus en plus... Après, je me dis, si ça a une conséquence réelle après, derrière, ça veut dire que vraiment, c'est un milieu pourri et qu'il faut que je change de métier. Mais je pense beaucoup... face à cette histoire, aux autres femmes qui peuvent être concernées, et je sais malheureusement qu'il y en a des milliers, aujourd'hui, en ce moment, par les mêmes genres de situations, et qui n'ont pas la chance, j'ai envie de dire, d'avoir été victime de quelqu'un de connu, qui fait que du coup, par exemple, je suis sûre qu'il y a des hommes qui sont prédateurs sexuels, par exemple, dont on ne peut pas savoir, dont les femmes ne peuvent pas, comme c'est pas public,
oui,
comme c'est pas des hommes publics...
Elles ne peuvent pas se mettre en lien, en relation...
Voilà, nous on a réussi à le savoir, parce que les femmes... parce qu'il y a une femme qui en a parlé, et qu'après derrière... voilà. Mais je sais que même quelques mois avant, quand j'avais eu connaissance donc de ce qui était arrivé à ma collègue de bureau et mon amie, qui m'avait annoncé qu'elle avait été victime d'un viol, j'avais cherché, j'avais essayé de parler autour de moi, et personne ne voulait parler. Mais je pense, voilà, je me dis, voilà, les femmes qui travaillent dans des pharmacies, qui travaillent ailleurs, pour elles, c'est d'autant plus compliqué déjà, et encore plus de porter plainte. Parce que ce qu'il faut aussi bien dire, c'est qu'aller porter plainte, c'est hyper impressionnant. C'est hyper stressant. Et c'est aussi ce qui fait la beauté du moment. C'est même un moment quand même, voilà. Mais on a peur. On a peur de dire, de mal parler, de mal être entendu. Et puis après, derrière, en plus, ça peut se retourner contre vous.
D'où oui, c'est sûr. D'où l'excellent conseil de Fiona de se renseigner sur la lettre plainte. On le mettra en ressource, en description de l'épisode. J'aimerais revenir sur un extrait. Donc, vous connaissez Sandrine Rousseau, femme politique écolo, qui a consacré un livre qui s'appelle « Parler » à l'affaire Denis Baupin. Denis Baupin, on s'en souvient, c'est une ancienne figure d'Europe Écologie Les Verts, accusée d'agression sexuelle. Et dans ce livre, Sandrine Rousseau revient sur une toute petite conséquence qui peut paraître anecdotique, du fait qu'elle ait pris la parole, c'est le changement de comportement de ses collègues, des hommes qui lui sont proches, et c'est les petites blagues qu'elle se prend, en mode « si je te tiens la porte, tu vas me faire un procès ». Et c'est aussi le fait que il n'y ait plus aucune légèreté ou plus aucun même flirt dans ses rapports avec les hommes au quotidien, comme si elle était punie quelque part. Fiona Texer, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez constaté dans le mouvement MeToo politique? Est-ce que ça fait partie des stratégies un peu de mise au banc de celles qui osent parler? Eh bien, on les extrait de la féminité un peu fun, quoi.
Complètement, et ça a eu des effets évidemment sur Sandrine Rousseau, qui était une de celles qui ont parlé, mais ça a eu des effets en fait sur beaucoup de femmes dans cette famille politique à laquelle j'appartenais à l'époque. Moi, je me souviens que la semaine après la dénonciation, il y a eu un homme qui m'a dit dis-leur, on était entouré d'autres hommes, que moi je suis pas comme Denis. Il y avait ce besoin de venir se justifier, de me prendre à partie. J'ai eu des collègues à qui on a dit si je te touche le bras, est-ce que tu vas porter plainte, etc. Et c'est d'ailleurs ces réflexions-là qui ont fait qu'à l'Assemblée nationale, des femmes comme Mathilde Viaud, qui était collaboratrice parlementaire chez les Écolos à l'époque, ont monté le collectif Chères collaboratrices, qui avait pour objectif de dénoncer à la fois le sexisme ordinaire, mais également le harcèlement, les agressions sexuelles qui pouvaient avoir lieu à l'Assemblée.
C'est des rappels à l'ordre sans cesse.
C'est l'idée de se dire qu'on n'est jamais chez soi, on n'est jamais tranquille, on ne fait que traverser un milieu d'hommes. La politique, c'est un milieu extrêmement masculin, conçu par et pour les hommes, dont les femmes ont été absolument exclues jusqu'en 1944, et où il y avait quand même une non-mixité très forte. Hein. Enfin, 95% des élus sont des hommes jusqu'aux années 2000. Donc, ça fait à peine 20 ans que les femmes sont entrées en politique, et celles qui osent pénétrer le monde politique, ça ne se fait pas sans rappel à l'ordre.
C'est ça.
Les conséquences, elles sont quand même sur le long terme, en fait, oui, pour les personnes qui ont parlé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez parlé, ça va être un enchaînement de conséquences familiales, professionnelles. Il y a ce chiffre qui est terrible, qui est le chiffre de la VFT, Association contre les violences faites aux femmes au travail. 95% des personnes qui ont dénoncé des violences sexuelles au travail perdent leur emploi ou bougent de poste. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, au final, c'est quand même les personnes victimes qui finissent par changer de poste ou de travail, précisément pour les petits exemples que vous venez de donner, qui sont loin d'être anodins. C'est qu'à un moment donné, c'est intenable pour elle. Et c'est ça qu'il faut inverser, en fait, aujourd'hui. Et même quand on est Adèle Haenel, il y a des conséquences, en fait. Si sur le moment, on peut se dire, waouh, quelle parole, que la presse est unanime, bah, sur le long terme, Adèle Haenel le raconte dans mon livre, hein, ça, avec sa famille, c'est compliqué, le travail, c'est compliqué. Donc même quand on est Adèle Haenel, il y a des conséquences. C'est jamais sans conséquences. Et ça a des effets sur les trajectoires familiales, professionnelles, personnelles. Moi, dans les affaires que je suis, il y a beaucoup de personnes victimes qui ont fini par divorcer. Il y a des personnes victimes qui ont fini par perdre leur travail. Elles n'ont pas forcément eu la carrière qu'elles auraient pu avoir. Il faut aussi raconter ça. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, mais ça veut dire que peut-être, justement, dans la réception de la parole et les conditions qu'on permet ensuite pour qu'elle reste en poste et qu'elle continue d'avoir une évolution de carrière sans constamment être amenée à ça aussi, bah c'est important.
Cécile Delarue ?
Oui, je pense qu'il y a vraiment ça. Moi, je sais qu'il y a un truc... Là, je suis en train de chercher du travail, j'envoie des mails à des gens. Je sais que le premier truc qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont googler mon nom. Le premier truc qui fait quand tu me googles mon nom, c'est que tu tombes sur des articles pourris de Voici qui dit « Qui est Cécile Delarue, l'accusatrice de Patrick Poivre d'avoir ?» avec des selfies immondes que j'ai pu faire, voilà, alors que ça fait 20 ans que je travaille et que, voilà, que j'ai écrit des livres. Enfin, j'ai fait plein de choses, des documentaires et tout. J'ai pas du tout envie d'être retenue pour ça. Donc oui, je pense qu'il y a deux choses aussi qui se passent. C'est qu'il y a à la fois le système qui n'a pas envie d'entendre, qui ne comprend pas tout ça et tout. Et puis, il y a aussi nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, qui changeons. On le constate aussi dans notre groupe, il y a une avalanche de divorces, changements de vie professionnelle. Je pense que c'est aussi... En fait, il y a un truc, un déclenchement, et où tout à coup, en fait, tu te mets à voir à quel point il n'y a rien qui va. Ça rend les choses quand même compliquées parce que tu te dis mince, il faut que je continue à évoluer dans ce monde avec quand même beaucoup de choses qui vont pas dans mon sens. Et tu te rends compte aussi à quel point vraiment c'est pas marrant d'être une femme aujourd'hui encore.
Mais je me permets de faire aussi moi aussi une petite confidence. Donc avant de faire On peut plus rien dire, j'ai écrit un podcast qui s'appelait Qui est Miss Paddle, où je racontais une relation abusive. C'était même pas encore question de violence sexuelle, juste de la brutalité dans l'intime. Et j'ai fait ce même constat. Dès que je me retrouvais après dans un contexte de séduction ou un contexte un peu amoureux, je me prenais mais le backlash. Et le backlash, en fait, il est dans la vie intime, en disant « Ah ben non, je vais pas sortir avec toi, tu vas faire un podcast sur moi. Bon bah si je t'embrasse, jure-moi que tu feras jamais un podcast sur moi. » Enfin, il y avait c'est réel, en fait, tout ça. Et c'est dans notre vie, tous les jours, celle qui ose parler, le paye cash. Enfin, le paye cash. Voilà, je voulais partager. C'était pas une question, c'était un partage d'expérience. J'aimerais revenir sur le côté plus sociétal, politique. On le voit depuis MeToo. Il y a eu par exemple Sandra Müller, qui était l'instigatrice du mouvement Balance ton porc, qui a été condamnée en diffamation en première instance. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le tribunal médiatique, l'opprobre des folles, etc. PPDA a fait la une quand même de Paris Match avec écrit sa vie de paria en couverture. Est-ce qu'on peut parler d'un backlash du contre le féminisme aujourd'hui ?
Je crois qu'à chaque...
Marine Turquie.
À chaque avancée de deux pas, il y a un backlash d'un pas en arrière. Alors, vous allez me dire, on avance du coup toujours d'un pas, mais c'est quand même un backlash. Moi, je me souviens de la une du Parisien sur Gérard Depardieu, qui était au même moment quand même visé par une plainte pour viol en 2018. Le formidable Gérard, ou l'incroyable Gérard, enfin bon, Monsieur Gérard, quoi. Donc, ça, c'est quand même, en France, c'est la meilleure blanchisseuse quand même. Hein. C'est-à-dire que vous êtes Woody Allen, vous n'êtes pas diffusé aux États-Unis, vous allez en France. Vous êtes, enfin, la liste est interminable. Et je crois que c'est terrible de ne pas pouvoir, en fait, dire les choses. Par exemple, sur Polanski. On a le droit de mettre sur la table des témoignages, il a le droit de répondre, etc. Mais je crois que l'accusation de censure qui est souvent faite aux personnes qui dénoncent des violences, moi je la mettrais plutôt dans l'autre sens. C'est qu'au nom de quoi on devrait taire, par exemple sur Polanski, les témoignages qui l'ont visé, la condamnation qui a été la sienne dans l'affaire Samantha Gamer. Non, pourquoi on censurerait ces témoignages et ces voix ? Moi je ne suis pas du tout pour qu'on censure son film, mais je suis pour qu'on dise d'où il parle. Et que lui-même, dans le dossier de presse de son film, d'ailleurs, dans le film J'accuse, il dit que, en fait, les phénomènes, je cite, de persécution qui sont à l'œuvre dans J'accuse, il les a connus, il a été accusé par des femmes, etc. Donc en fait, pourquoi enterrer ça ? Donc je pense que c'est important de pas renverser aussi l'argument de la censure. Mais de backlash, y en a toujours, et notamment en France. On voit qu'à chaque affaire, ensuite, il y a quelque chose qui nous est rappelé pour ne pas continuer de parler. Et les plaintes en dénonciation calomnieuse, ce sont des leviers judiciaires auxquels ils ont le droit, les mis en cause, d'accéder. Mais il faut aussi les décrypter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel signal ça envoie ? Ça veut dire aussi, taisez-vous dans beaucoup d'affaires. Donc c'est aussi ça, le backlash. Et puis, je reviens deux minutes sur l'accusation de tribunal médiatique, parce que c'est une autre formule qui, moi, m'agace beaucoup. C'est qu'en fait, nous, journalistes, on ne fait pas le même métier que les magistrats, que les policiers. Ils ont leur travail sur la dimension pénale. Eux, ils déclarent des coupables. Nous, journalistes, on ne déclare pas des coupables. On ne fait que mettre des faits d'intérêt public sur la table. Il faut rappeler que les violences sexuelles, ce n'est pas des faits privés. On n'est pas dans la sphère privée. On n'est pas, comme j'entends souvent, dans des histoires de coucherie ou de petites culottes. On est dans, en fait, des potentiels crimes et délits. Et puis, bien au-delà de la dimension pénale, en fait, par exemple, l'affaire Gérald Darmanin qu'on évoquait tout à l'heure, ça pose la question du comportement d'un élu avec ses administrés, puisque à minima, ce qu'il a reconnu Gérald Darmanin, c'est à chaque fois deux relations sexuelles qu'il estime consenties, avec deux personnes qui étaient venues lui demander de l'aide, l'une pour son dossier judiciaire et puis l'autre pour une demande de logement. Donc, est-ce que c'est un comportement pour un élu de se comporter comme ça? Donc, ça pose plein de questions, et je crois que c'est le rôle des médias de mettre ça sur la table. Le backlash existe peut-être, mais ce travail-là, il doit exister. Et il faut continuer de lutter contre le tribunal médiatique, qui est quand même une formule paresseuse, qui met dans le même sac les réseaux sociaux, les enquêtes de fond et puis les éditos, ce qui est quand même pas la même chose.
On appelle tribunal médiatique la liberté d'expression quand elle nous dérange. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'en effet, oui, la plainte en dénonciation calomnieuse, c'est une stratégie dans un rapport de force. Enfin, c'est penser pour silencer les victimes ou leur faire peur pour qu'elles n'osent pas ensuite aller porter plainte.
Oui, ce qui est assez marrant dans ce truc-là, c'est qu'en fait, je recherchais l'expression, je ne sais plus comment on dit sur Twitter, là, les hommes qui se plaignent. Les ouin-ouin. Ouais, les ouin-ouin, voilà. Non, mais on est quand même face à des méga, méga top ouin-ouin. C'est que les gars sont en train de dénoncent des femmes qui seraient dans la victimisation, alors que c'est qu'ils font de la victimisation sur leur propre sort. C'est-à-dire que c'est des pauvres petites choses qui souffrent parce que les méchantes femmes disent des choses contre eux. C'est assez fascinant, quoi.
Comment vous travaillez, Marine Turquie, quand vous enquêtez sur les affaires de violences sexuelles ? Quelles sont vos méthodes ?
Déjà, il faut préciser qu'en fait, c'est des méthodes d'enquête journalistique qu'on applique pour des affaires comme des affaires de financement. Moi, je travaille sur l'affaire Benalla, sur les financements du Front National. En fait, on fait ni plus ni moins la même chose. C'est-à-dire qu'on a des pistes, on va les recouper, on va vérifier. Et donc, contrairement à l'imaginaire collectif qui serait que, une victime arrive chez nous, clé en main, tout son témoignage et c'est parti, on publie, c'est pas du tout ce qui se passe. Par exemple, Adèle Haenel, je la rencontre en avril 2019, elle me livre son témoignage, il se passe 7 mois entre le moment où je recueille ce témoignage et le moment où on publie, 7 mois d'enquête où je vais prendre, en fait, et je le fais à chaque fois, tous les éléments qu'elle me livre, les dates, les protagonistes, les lieux, je vais tout vérifier, je vais récupérer le maximum d'éléments matériels, parce que contrairement à ce que j'entends souvent, en fait, il y a des éléments. Il y a souvent des messages qui ont été envoyés où les personnes relatent les faits. Il y a parfois des messages avec le mis en cause qui ont été échangés. Il y a des mails, il y a des photos, il y a plein de choses. Donc j'ai fait ça typiquement dans l'affaire Adèle Haenel, mais toutes les autres affaires. Donc on vérifie tout. Et puis à un moment donné, une fois qu'on a contacté tous les protagonistes, qu'on a pris les documents, qu'on a tout ça, il y a le moment donné qu'on appelle le contradictoire. Et c'est pas une phase qui est 24 heures avant de publier. On appelle le mis en cause et on lui dit voilà, on a ça, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas du tout ça. C'est une phase à part de l'enquête qui est hyper importante, qui est nécessaire. Il faut l'expliquer aux personnes. Pourquoi c'est important d'aller chercher la parole du mis en cause, de le confronter à tous les éléments, ça solidifie l'enquête, et puis évidemment c'est normal dans un souci aussi de contradictoire d'équilibre qu'il ait la parole. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va voir le mis en cause et on lui dit on vous demande un entretien, on a un certain nombre d'éléments sur lesquels on veut vous entendre, on veut recueillir votre version des faits. Je dois dire que la plupart du temps, ils refusent. Et on a deux lignes d'avocats pour dire que tout ça est faux et qu'ils démentent les accusations, mais qu'ils ne souhaitent pas s'exprimer, soit parce qu'il n'y a pas d'enquête en cours, ou soit parce que justement il y a une enquête en cours, donc ils ne veulent pas s'exprimer. Donc souvent, ils ne veulent pas s'exprimer. Mais c'est important cette phase-là. Ce n'est pas 2 minutes, c'est des longues questions qui partent. Par exemple, pour Christophe Rougia, l'homme qui accuse Adèle Haenel, c'était 16 blocs de questions que je lui ai adressées quand il a refusé l'entretien. Donc c'est un long temps. Et puis une fois qu'on a fait ça et qu'on a obtenu parfois des réponses, on revient vers la personne qui dénonce les violences et on lui dit, voilà, là, il me dit ça, qu'est-ce que vous répondez? Là, il y a peut-être un problème de date, est-ce qu'on peut éclaircir ça? Moi, je pense qu'on peut poser toutes les questions, mais il y a un ordre dans lequel les poser. Il y a une façon de faire, peut-être à la différence des affaires de financement et de corruption, la différence, c'est que là, on est sur de l'humain. On n'est pas sur un dossier, on n'est pas sur un leak avec des chiffres. On gère de l'humain et donc je pense qu'il y a un travail comme ça de mise en confiance à faire qui me semble normal, de ne pas traiter n'importe comment les personnes qui quand même vous livrent un récit extrêmement dur, extrêmement intime. Parfois, vous êtes la première personne à qui elles en parlent aussi. Ça arrive. Donc, c'est un temps long. Et c'est pour ça que ces enquêtes, elles sont terriblement longues. Et c'est pour ça que les milliers de dossiers qu'on reçoit, on ne peut pas les traiter. On est obligé, malheureusement, de faire une forme de tri et d'en traiter certaines plutôt que d'autres qui vont finalement raconter quelque chose d'universel. On me dit souvent, oui, mais alors du coup, vous faites que Adèle Haenel parce qu'elle est connue. Ben non, on a fait des tas d'enquêtes sur des affaires de gens totalement inconnus, mais qui racontaient des choses et qui sont universelles. Et je crois que ces affaires, elles participent de la prise de conscience collective de la société, pas seulement pour débloquer les paroles des personnes victimes, mais pour débloquer celles des témoins qui vont se dire, ah ben oui, là j'ai pas su regarder ça, entendre telle alerte, agir moi-même, et puis aussi peut-être les agresseurs qui peut-être en lisant certains récits vont quand même réfléchir à leur propre comportement, en tout cas je l'espère. Mais donc ces enquêtes elles sont longues, elles sont difficiles, et je dois dire que pour peut-être 10 enquêtes qu'on va lancer, peut-être 2-3 vont aboutir et le reste ne vont pas aboutir. Et c'est ça que j'explique toujours, que vous soyez Madame Michu entre guillemets ou Adèle Haenel, moi j'explique toujours la même chose, on va essayer de le faire mais je garantis pas qu'il y ait une publication au bout, il faut qu'on ait suffisamment d'éléments, que ce soit suffisamment vérifié, etc. aussi pour pas vous fragiliser si on publie, que vous soyez pas seul au front. Donc c'est un long travail, ça prend du temps, ça demande du tact, mais je crois qu'on peut poser toutes les questions, il y a juste une manière de le faire, il y a juste un ordre dans lequel le faire.
On approche de la fin de notre conversation, mais j'aimerais vous demander, on a beaucoup parlé de que faire si on est victime, que faire aussi quand on a des soupçons, ou quand on est témoin justement, ou quand on a juste un doute de choses qui peuvent se passer, soit au travail, ou je sais pas, chez nos voisins. Enfin, que faire qu'est-ce qu'on fait avec ces doutes? Est-ce qu'on va aller voir les personnes? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Marine Turquie, vous parliez des témoins.
Ouais, moi j'essaie d'appuyer sur le fait qu'on ne peut pas tout demander aux personnes victimes.
Exactement.
Tout ne
exactement.
Peut pas reposer dans ces affaires-là sur les personnes victimes. Je crois que c'est à chacun et chacune de savoir accueillir ses paroles, de savoir les entendre. Moi je sais que beaucoup m'ont dit après coup bah, ça m'a fait réfléchir ce que je vous ai entendu dire sur les témoins, parce que finalement là j'ai telle personne qui m'a livré ce récit et je partais du principe que je pouvais rien faire, que ça ne me regardait pas, etc. Alors après, vous ne pouvez pas non plus parler à la place des personnes victimes. Donc c'est un petit équilibre à trouver. Déjà, on parlait tout à l'heure de l'article 40. Effectivement, quand vous êtes un fonctionnaire et que vous avez connaissance de potentiels crimes ou délits, ben vous devez en référer au procureur. Vous devez faire une lettre et alerter, faire un signalement. Ensuite, au niveau des entreprises, je crois qu'il faut encourager à ce que les entreprises se dotent là-dessus de véritables processus d'accueil de ces paroles, de signalement. Nous, on l'a fait à Mediapart, hein, on a raconté qu'on s'était davantage armé au fil des années sur ce sujet. C'est très important parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Une collègue va vous dire... Il y a un tel à la fête là qui m'a mis une main aux fesses, etc. Tout le monde va en rigoler, ou tout le monde va dire oui, mais de toute façon, toi aussi, t'étais bourré, etc. C'est des réactions qu'on voit encore, partout. Mmh. Donc, il faut savoir mieux accueillir ces paroles-là, avoir les bons relais ensuite, et que ce ne soit plus minimisé. Parce qu'en fait, le problème, c'est la banalisation. C'est la banalisation, et c'est là où c'est très bien, et on en parle, et voilà, dans ce podcast, c'est apprendre à nommer les choses. Vous faites un petit micro-trottoir demain, là, dans la rue, vous demandez aux gens ce que c'est qu'une agression sexuelle, ce que c'est qu'un viol, ce que c'est que le harcèlement sexuel, les gens ne vont pas du tout comprendre. Encore maintenant, ils ne savent pas ce que c'est qu'une agression sexuelle. Donc, il faut quand même, on n'y est pas, quoi. Il faut quand même pouvoir nommer les choses, parce que les gens, moi je le vois dans nos enquêtes, ils peuvent pas dénoncer ce qu'ils connaissent pas. Quand je leur demande s'ils ont vu des agressions sexuelles, dans leur imaginaire, c'est un viol. Ils disent, bah non. Donc, il y a un vrai travail quand même de pédagogie à faire là-dessus. En Scandinavie, on sensibilise dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, les enfants à ces sujets, avec les mots qu'il faut, et graduellement, et ben on voit qu'il y a moins d'agressions sexuelles.
Fiona Texer, MeToo politique, vous pensez que ça a fait avancer la cause?
En tout cas, on en a parlé, alors qu'on n'en parlait pas pendant des années et des années. C'était des sujets qui restaient donc sous les radars. Et là, on en a parlé, c'est devenu à la fois un sujet d'attention des médias, et puis c'est devenu un sujet qui a été discuté dans les directions des partis. C'est un sujet qui a dû faire son chemin, je pense, également dans certaines institutions, puisqu'on a interpellé le président de l'Assemblée nationale, par exemple. Et puis, c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité, puisque les législatives, c'est le mois prochain, et ce qu'on est en train de faire en ce moment avec l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique que nous avons créé avec les initiatrices du mouvement MeToo Politique, c'est d'alerter sur les candidats. Donc on a créé un compte Twitter et un compte Instagram qui informe sur les députés qui se représentent ou les candidats qui se présentent pour la première fois et qui met en lumière ceux qui ont un passif fait d'accusation de violence sexuelle.
C'est déjà la fin. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous dans cette conversation difficile. Nous allons y arriver. Un jour, je vous promets, nous parlerons d'autre chose. Merci à nos invités Marine Turki, merci à Fiona Texer, merci à Cécile Delarue, merci à notre chargée de production Charlotte Bex, merci à notre réalisateur Thomas Chalvidal. On peut plus rien dire, c'est le podcast de débat de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau débat. À très vite.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.